Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, c'est la 20e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Reportage, c'est le 6e épisode de Dal Kennedy. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, une interview pour vous donner envie d'aller voir le dernier documentaire de Brigitte Chevet sur la lutte contre les violences faites aux femmes qui se joue aussi à l'hôpital. Et puis la recommandation du jour, le festival Sévenadur à vivre jusqu'au 17 mars. Bienvenue dans l'arène. Allez, comme chaque jour, on commence l'émission d'information locale avec une info du jour, une que je choisis parmi tout ce qui se raconte dans les médias locaux. Et aujourd'hui, on parle de la 20e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Et alors, le magazine associatif Unidiver en profite pour mettre en lumière un ouvrage sur ce sujet. Endo Girls, c'est signé Nathalie André, une journaliste web, et Violette Suquet, illustratrice, deux Bretonnes qui livrent un travail d'enquête publié aux éditions et Daniel au mois de janvier. Dans ce roman graphique, on rencontre 9 endo-girls qui souffrent toutes d'endométriose, accompagnées d'explications de spécialistes, sages-femmes, psychologues, mais aussi de pages historiques. Et tiens, saviez-vous que l'endométriose était déjà connue au moins dès l'Égypte antique ? Alors, il faudrait dire qu'en France, il y aurait entre 1,5 et 2,5 millions de femmes touchées par cette maladie gynécologique inflammatoire et incurable à ce jour. Pour faire simple, l'endomètre, c'est une muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, mais qui peut migrer en dehors de la cavité utérine, ce qui génère alors des douleurs plus ou moins intenses. L'endométriose, elle peut aussi être silencieuse et être détectée suite à des problèmes d'infertilité, problème qui, au passage, concerne 30% des patientes. Malgré des avancées, notamment la formation en études de médecine depuis 2020, eh bien le diagnostic il reste long à poser, 7 ans en moyenne, car vous le savez, la douleur féminine n'est pas toujours entendue sur fond de sexisme ambiant. Allez, après cette info, on passe au reportage du jour. Et ce reportage, c'est l'épisode 6 de Dal Kennedy, une série de portraits radiophoniques d'habitants de Villejean à Rennes, un quartier étiqueté QPV pour quartier prioritaire de la politique de la ville et dont la construction remonte aux années 60. Aujourd'hui, ce quartier compte 20 000 habitants et parmi eux, il y a Johan.
Oui, bonjour Johan, c'est Lucie de Canal B.
Oui.
C'est à quel étage ?
C'est au troisième.
Au troisième, ok, à tout de suite, merci.
Cette série de portraits part d'un constat, la faible place accordée en radio aux habitants de quartiers populaires. Alors toute l'année, je vous propose de les écouter. Épisode 6, Johan.
Aujourd'hui, ce que je fais à Sillon-Saliès, ça a vraiment du sens pour moi. J'ai vraiment la sensation de trouver une place qui me convient. Chose que j'ai pas réussi à trouver avant, quoi. C'est aussi l'avantage du statut de bénévole, que je peux un peu choisir les semaines où j'ai envie de donner plus et les semaines où je me préserve, parce que c'est pas évident, quoi, ce genre de... du travail, hein. Moi j'estime que c'est vraiment du travail.
Merci de m'accueillir.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous préférez, un café ou un thé ?
Je veux bien un café. Merci beaucoup.
Je sais pas comment me présenter. Moi. Je dis bonjour avant, peut-être ?
C'est possible de dire bonjour.
Alors, bonjour, je suis Johan. Et mon activité principale en ce moment, là, c'est depuis un an et demi, c'est bénévole à Sillon-Saliès. J'ai 43 ans.
Et vous vivez dans le quartier Villejean. Là, on se retrouve chez vous. Est-ce qu'on peut essayer de décrire un peu le lieu où vous habitez
Factuellement, c'est un T2. Parce que, bon, c'est aussi. C'est un petit ensemble HLM de 4 étages. Ma pièce principale, c'est un salon, quoi. Voilà. C'est un salon avec un canapé, une table basse. Une télé, un ordinateur, voilà. Et c'est là où je passe pas mal... quand je suis pas à l'association, c'est là où je suis, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai une passion de la musique, quoi. Je suis vraiment un gros fan de musique, voire un boulimique même. Voilà, donc j'écoute beaucoup de choses. Je dis pas de tout parce que j'écoute pas de tout. Il y a des styles qui m'intéressent pas du tout, mais il y a beaucoup de styles qui m'intéressent, et principalement... dans quatre grands styles. Le hard rock metal, le reggae, toute forme de reggae, voilà, du rock steady au dancehall. Le hip-hop, principalement états-unien, anglophone et le rap français. Et le quatrième, c'est tout ce qui est autour du jazz et à partir de la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, donc après ça brasse quoi, blues, jazz, rhythm and blues, et j'en oublie, funk, évidemment le funk aussi, voilà.
C'est arrivé comment dans votre vie ?
Depuis l'adolescence.
L'adolescence.
Je pense que c'est très bateau de dire ça, mais c'est vraiment à ce moment-là. Parce que c'est... on commence à avoir des émotions, on ne sait pas trop comment... Voilà, quoi mettre dessus. Et puis j'ai grandi avec beaucoup de mélancolie. Et tout de suite, le métal m'a accroché, quoi. Pour cet aspect nerveux, violent, mais à la fois mélancolique, quoi.
Quand est-ce que vous êtes arrivé dans le quartier Villejean? Et puis pour quelle raison dans votre parcours de vie? Comment est-ce que vous êtes arrivé là? On est vraiment à deux pas de la dalle Kennedy.
Alors, je suis arrivé dans le quartier de Villejean en janvier 2017. Auparavant, on remonte où? Si on fait antichronologiquement, non, c'est pas le bon terme, mais...
À rebours, quoi?
Ouais, à rebours. Juste avant, j'habitais à Donloup. J'étais en couple à ce moment-là. Et encore avant, j'ai été à Rennes. En fait, j'ai fait beaucoup d'allers-retours dans ma vie. À partir du moment où je suis arrivé à Rennes en 2003, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre ailleurs et Rennes. Et finalement, toujours pour revenir à Rennes. Voilà.
Vous êtes plutôt originaire du Morbihan. Et oui. Vous l'avez quitté, on va dire, volontairement. Vous ne vous sentiez pas bien dans ce coin-là ou...
Je pense que c'est aussi besoin de prendre la distance avec la famille, voilà, autour de la vingtaine. Et puis Rennes me semblait beaucoup plus dynamique que Vannes, quoi. Voilà. Plus de jeunes, une vie étudiantine plus développée, donc plus d'accès à la culture aussi, puis plus de sorties le soir dans les bars, c'est plus animé qu'à Vannes, c'est sûr. Donc tout ça, à 23 ans, c'est sûr que ça me motivait plus, quoi.
Est-ce qu'il y a des éléments sur votre parcours, on va dire, que ce soit scolaire et puis professionnel, que vous souhaitez partager aux auditeurs avant de dire ce que vous faites aujourd'hui?
A priori, je dirais pas vraiment envie de partager, parce que je sais pas trop quoi en retirer. Je sais pas, c'est peut-être avec l'âge, j'ai peut-être moins envie maintenant de revenir sur toutes ces années, parce que aujourd'hui, ce que je fais à Sion-Saliès, ça a vraiment du sens pour moi. J'ai vraiment la sensation de trouver une place qui me convient, chose que j'ai pas réussi à trouver avant, quoi. Alors moi, j'ai une formation après la troisième de BEP et bac STI.
Dans quel champ?
Dans la menuiserie. Et j'étais pas du tout à l'aise là-dedans, ça me convenait pas trop. Je suis allé plutôt vers les boulots manuels, quoi. J'ai essayé un peu la menuiserie, ça a pas trop marché, évidemment. Après, pas mal de manutention, des petits boulots d'usine, pas mal de galères comme ça, quoi. Et jusqu'à quand même... En fait, j'avais en fond de moi, depuis... autour de la vingtaine, hein, pareil, hein, l'idée que dans les métiers du social, j'avais quelque chose à y faire. Mais j'arrivais pas trop à identifier quoi. Et ce qui fait que j'ai un petit peu essayé des choses, mais sans aller jusqu'au bout, parce que ça accrochait pas. Il y avait un truc qui me manquait. Jusqu'à il y a quelques années, faire 3 ans d'AVS à ESH, ça m'a confirmé qu'effectivement, il y avait, dans la notion d'accompagnement, il y a un truc qui me botte, quoi. Il y a un truc où je me sens bien, je me sens à l'aise. Mais c'était pas ce métier-là non plus qui me convenait.
Donc, il faut dire que AESH, c'est accompagnant d'élèves en situation de handicap, donc ouais. En contexte scolaire, ouais. Qui est une profession assez précaire et puis avec des conditions d'exercice assez difficiles. Quel souvenir vous en gardez de cette expérience-là pendant 3 ans?
Ça va, faire la suite avec la notion de précarité du métier. C'est que, je sais même pas si c'est encore un métier d'ailleurs. C'est que la notion de précarité, souvent on l'entend sur le côté financier. Sauf que là, il y a aussi, au niveau du positionnement qu'ont les AESH, anciennement AVS, c'est un statut qui est un peu bâtard, quoi. C'est-à-dire qu'on fait partie de l'équipe sans vraiment faire partie. Je trouve que c'est difficile d'asseoir une légitimité quand on ressent des choses, quand on a un peu de prérequis, ce qui était mon cas, pour avoir un dialogue avec les enseignantes, parce que j'ai travaillé principalement en maternelle et primaire, donc principalement des enseignantes. Quand la relation se passait bien avec l'enseignante, ça se passait bien. Quand ça se passait mal, ce qui a été le cas aussi, ça s'est très mal passé. Voilà, parce que divergence d'opinion, de point de vue sur l'enfant, de comment gérer une classe, de comment enseigner aussi, enfin, ça peut être tout de suite très très tendu, quoi.
On arrive au quartier Villejean, dans lequel vous êtes arrivé il y a 7 ans, et vous vous investissez aujourd'hui au sein de l'association Si on s'alliait, dont on a déjà parlé dans l'émission d'information locale, notamment à travers une mobilisation aux côtés de femmes de ménage il n'y a pas très longtemps. Quel regard vous portez sur ce quartier ?
Depuis 2003, quand je suis arrivé à Rennes, j'y suis un tout petit peu venu par moment, et je sentais qu'il y avait une espèce de dynamique, parce que, alors oui, c'est un quartier où il y a pas mal de HLM, donc des gens qui sont plutôt pauvres, mais il y a aussi la fac qui est juste à côté, ce qui fait qu'il y a une espèce de dynamisme comme ça, où il y a différentes catégories de populations qui se croisent, se rencontrent, je sais pas, mais qui se croisent en tout cas. Donc ça fait moins fermé, parce que j'ai habité en ZUP Sud aussi, et c'est vrai que ça fait moins fermé que la ZUP Sud, quoi.
Quels sont les endroits du quartier que vous fréquentez ? Alors, évidemment, vous êtes à l'association, Vous disiez que vous passez beaucoup de temps ici, aussi à votre domicile, évidemment. Quels sont vos usages du quartier ?
Comme je disais tout à l'heure, je suis arrivé à Villejean après une séparation. Et en fait, je me suis retrouvé ici, isolé. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas une grande pratique du quartier, parce que pas de relation non plus pour partager, quoi.
Il y a des liens entre voisins, notamment quand on est dans un immeuble comme ça, on se croise ou c'est plus que ça ?
Moi, je les croise. Et on se dit bonjour, et puis voilà, bonjour, ça va, oui, ça va, et ça s'arrête là, quoi. Non, moi, ma pratique du quartier, après, s'est développée à partir du moment où j'ai intégré Si on s'alliait, quoi.
Comment vous l'avez découverte, cette association ?
Par étapes. C'est assez rigolo. Je ne l'ai pas identifié tout de suite, mais j'avais entendu parler de la lutte pour le maintien de l'antenne CPAM sur le quartier. Donc ça devait être en 2016-2017, dans ces eaux-là. Justement, au moment où j'arrivais, moi. Et mon père m'a parlé... Il y a eu un échange avec un journaliste ou une journaliste de Politis, il me semble, avec une salariée de Si on s'alliait. Et il y avait eu, du coup, un petit article dans le Politis en question. Et comme mon père y est abonné, je ne sais plus, un hiver où je passais quelques jours chez eux, il dit « Tiens, il y a cette association-là, elle est dans ton quartier, ça pourrait t'intéresser ». Je fais oui, pourquoi pas, mais j'y suis pas allé. Mais j'avais bien noté que l'association existait. Et puis, l'année dernière, j'ai fait une espèce de truc de comment on appelle ça, de reconversion professionnelle au CLPS. Et là, moi, mon objectif, c'était moins... parce que ça fait longtemps que le monde professionnel, ça marche pas trop. Donc je me disais, faut que je me concentre sur ce qui me motive dans la vie, là où j'ai envie d'apporter quelque chose, où là j'ai envie d'apprendre des choses, de me développer, quoi. Et à ce moment-là, je m'intéressais, et je m'intéresse toujours beaucoup, à l'antiracisme et le décolonialisme. Et en fait, j'avais envie un peu d'aller dans cette direction-là. J'ai découvert qu'à Rennes, il n'y a pas trop d'associations là-dessus, ou qui ne correspondaient pas à l'angle qui m'intéressait. Et un jour, je suis allé recharger ma carte Corrigo au centre social, Puis je me dis, ah bah tiens, c'est le début d'après-midi, c'était un lundi. L'association est juste à côté, j'ai le temps, je serais con de pas y aller, quoi. Donc j'y suis allé, et puis j'y suis. Là où je m'investis beaucoup, c'est sur les démarches administratives, l'accompagnement dans les démarches administratives des personnes qui viennent nous voir, beaucoup d'étrangers, parce que ce sont celles qui se retrouvent les plus désemparées par rapport au système administratif français.
Quelles sont les nationalités que vous croisez ? Elles sont nombreuses ou...
Ouais. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a tous les pays francophones africains, quoi, déjà. Enfin, des personnes originaires des pays francophones, on va le dire bien quand même. Mais on a aussi... moi, j'ai vu quelques Afghans et Afghanes. Et donc, je fais beaucoup les permanences d'entraide administrative qu'on a le mardi matin et le jeudi après-midi. Et sinon, dans d'autres temps dans la semaine, donc c'est-à-dire le lundi matin, le jeudi matin, et parfois le vendredi, et des fois aussi le mercredi, je reçois des personnes donc au local pour des dossiers qui sont un peu plus longs que ce qu'on peut faire en permanence, quoi. Il y a des semaines où j'en fais plus que d'autres, évidemment. C'est aussi l'avantage du statut de bénévole, que je peux un peu choisir les semaines où j'ai envie de donner plus et les semaines où je me préserve, parce que c'est aussi c'est pas évident, quoi, ce genre de travail, hein. Moi, j'estime que c'est vraiment du travail. Mais si on compte les deux permanences, ça fait 4 heures, donc 8 heures déjà. Si on part sur une heure après en entretien, on arrive sur les 12, quoi.
Est-ce que ça a justement, en tout cas, permis de rompre l'isolement dont vous parliez ? Est-ce qu'il y a des liens que vous avez noués, avec, que ce soit avec vraiment les responsables de l'association ou les autres bénévoles comme vous ?
Alors, les liens sont très, très amicaux. Et pour dire, il y a 3 salariés dans l'association, et environ... en comptant les salariés, on est un noyau dur de 5-6 personnes, et autour gravitent 10-15 personnes, quoi, qui viennent plus ou moins donner leur coup de main. Est-ce que j'ai développé des relations amicales ? Pour l'instant, ça reste amical professionnel, on va dire, quoi. Voilà. C'est amical collègue, quoi.
Il faut dire aux auditeurs, c'est pas donc un premier exercice d'interview pour vous, puisque justement avec cette casquette de bénévole dans l'association Sillon Saliès, vous avez été interviewé par un réalisateur. Du coup, comment est-ce que vous vivez cet exercice de parler à un micro ?
Je me sens plutôt à l'aise. Je viens de me souvenir que j'ai aussi participé un peu à une radio dans le Morbihan, Radio Plume FM, ça remonte autour des années 2010, et j'y ai notamment animé une émission sur le hip-hop, toutes les semaines, je faisais ça de Rennes, j'envoyais mon fichier, et puis c'était diffusé. Donc oui, j'ai déjà une petite expérience quand même, de micro et de parler. Ouais.
Vous avez plusieurs fois évoqué un caractère un peu mélancolique,
oui.
Et puis on sent que vous êtes aussi politisé... à travers les lectures que vous avez évoquées, puis votre engagement dans l'association, est-ce qu'il y a un sujet qui, plus que les autres aujourd'hui, plutôt que de provoquer la colère, provoque de la mélancolie chez vous ?
Ce qui peut m'émouvoir, et ce qui m'émeut assez souvent, c'est la dureté de ce qu'ont traversé des personnes, quoi. Enfin, ça peut être sur les personnes étrangères qu'on fréquente... Ouais, il y en a quand j'apprends des vécus, ou que je les vois parce qu'elles viennent nous voir, parce qu'elles sont complètement dans la merde, quoi. Mais des fois, quand j'entends parler aussi de certaines violences sexistes et sexuelles, je me dis, pareil, hein, c'est chaud, quoi. Ou là, dernièrement, je sais plus, j'entendais un sujet sur les enfants aussi, Je sais pas, c'est peut-être moi ce que ça m'évoque du côté du trauma, quoi. Ouais, je sais pas.
On terminera sur ça. Est-ce que ça vous va ?
Moi, c'est pas très joyeux, mais...
Non, mais bon, des fois la vie n'est pas très joyeuse.
Tout à fait.
C'est aussi le moment où je vous demande de choisir un morceau.
Il y a quand même ce morceau-là qui a tendance à revenir là, depuis quelques années. C'est un morceau du groupe de métal Yob. Il y a quelque chose de ample dans la sonorité, c'est-à-dire que ça occupe bien l'espace sonore. Donc moi, ça me prend et il y a quelque chose qui est englobant. Il y a ce fond mélancolique hein, que j'ai toujours qui peut rejaillir. Alors, je peux avoir la petite larme voilà, à l'occasion sur ce morceau-là. Pas à chaque fois, mais quand même souvent. Ça balance et ça envoie en même temps, mais il y a une espèce de... Comme c'est du doom, il y a aussi ce côté lent, et il y a le côté transcendantal, voilà, qui habite aussi sa musique, et je trouve particulièrement dans ce morceau-là. Et en ayant un petit peu regardé les paroles, il y a quelque chose de métaphysique aussi dans le texte. Voilà, de ce que j'en ai compris, ça me touche.
Avec le morceau A Blaze sur Canal B, c'était le choix musical de Johan que vous venez d'entendre dans un reportage. Un habitant du quartier Villejean, il a choisi ce titre extrait de l'album Your Raw Heart. C'est sorti en 2018 et c'était le 8e disque de ce groupe de Doom US. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B. Une émission à écouter du lundi au vendredi sur le 94.0, mais aussi en ligne sur canalb.fr. Et c'est une radio qui vous tend son micro si vous avez une action ou un événement à annoncer aux auditeurs, que ce soit avec votre association, votre collectif ou autre type de structure, par exemple une institution. Tant que ça rentre dans le champ de l'information locale et que ce n'a pas un but purement lucratif, vous pouvez m'envoyer l'info par email à l'adresse lucie@canalb.fr et ensuite je reprends contact avec vous pour vous proposer un échange ici en studio, un reportage sur le terrain ou pourquoi pas pour l'annoncer sous forme de recommandation du jour. On poursuit l'émission pour le moment avec une interview.
Suite à votre passage aux urgences de l'autre jour.
C'est ça.
Ouais. Et la gendarmerie était intervenue parce que j'ai vu.
Oui.
Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous pouvez nous raconter si vous.
Alors en fait, ça faisait plusieurs semaines que ça dégénérait psychologiquement avec mon conjoint. Fallait toujours l'écouter, aller dans son sens. J'avais pas le droit à la parole. Enfin, ça a été une semaine très très compliquée. Mmh. Et le soir là, il y a eu bagarre et il m'a giflé. Fortement.
D'accord.
Brigitte Chevet et Jean-François Bouet, bonjour.
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 Je vous présente Brigitte, vous êtes réalisatrice rennaise et puis l'autrice de ce documentaire « S'il sait que je suis là, il me tue ». C'est à voir en ce moment sur la plateforme cubeweb.media, un film où on découvre votre travail. Jean-François Bouet, vous êtes médecin à Saint-Malo et vous avez ouvert avec d'autres il y a bientôt 10 ans une consultation dédiée spécifiquement aux femmes victimes de violences conjugales. Première question, Brigitte Chevet, qu'est-ce qui vous a amené vers ce sujet de documentaire et donc vers Jean-François? François Bouet.
Alors, au départ, j'étais très naïve, hein, je ne connaissais rien au sujet, mais je m'intéressais à la question des féminicides et qu'est-ce qu'on pouvait raconter autour de ça, de neuf. Et puis, j'ai entendu parler de cette expérience de Saint-Malo. Et donc, tout bêtement, j'ai cherché donc les coordonnées du responsable et je suis tombée sur Jean-François Bouet. J'étais le rencontrer à Saint-Malo.
Jean-François, en 2015, avec une équipe de soignants, vous avez donc lancé une consultation au sein des urgences de Saint-Malo-Dinan, une consultation qui est anonyme et dédiée aux femmes de violences conjugales. Vous étiez des pionniers, alors comment est-ce qu'on explique qu'il y a bientôt 10 ans, vous ayez raisonné différemment en lançant cette consultation-là ?
En fait, c'est grâce à une femme qui est passée aux urgences et qui avait subi de la violence. C'était une femme pour laquelle l'interrogatoire était compliqué parce qu'elle était sourde, muette. Et comme la parole était compliquée, enfin la parole entre guillemets, en tout cas l'histoire de cette femme était compliquée à récupérer, c'était d'autant plus précieux. Et du coup, c'était une femme qui était victime de violence de la part de son conjoint. Et donc le parcours de cette femme et les difficultés de cette femme, ça m'a complètement éclairé. Je me suis dit que je faisais vraiment n'importe quoi auparavant, que je ne m'intéressais pas du tout au parcours des femmes que je pouvais rencontrer au niveau des urgences, en tout cas pas à cette problématique des violences. Et je me suis un peu remué en me disant qu'il fallait quand même faire quelque chose. J'ai eu la chance de tomber sur une assistante sociale du service qui était motivée. Et là, tout commence.
Dans ce film-là, dont on parle aujourd'hui, qui dure 52 minutes, on rencontre donc plusieurs femmes qui racontent leur douleur physique et puis psychique, qui racontent aussi leurs difficultés à partir. Pour bien comprendre ce qui amène ces femmes en face de vous et de vos collègues, Jean-François, ce sont d'abord les blessures physiques, puisque vous êtes dans un service d'urgence, mais après ça va plus loin.
Alors, c'est les deux. On peut en voir aux urgences pour des traumatos, des blessures physiques, mais on peut en voir aussi aux urgences parce qu'elles ont pris des médicaments, qu'elles ont pris de l'alcool, qu'elles ne vont pas bien, qu'elles font des malaises, des douleurs thoraciques, des crises, entre guillemets, de spasmophilie. Et puis, voilà, enfin, y a plein de petits fils comme ça qui peuvent dépasser du parcours d'une femme. Et si on s'y intéresse, si on commence à dérouler tranquillement ce fil, on va de temps en temps trouver une histoire de violence et c'est important qu'on puisse agir.
Ce qu'on comprend rapidement, c'est que voilà, derrière ces blessures, c'est tout un système de contrôle de leur vie qui a été mis en place avec des femmes frappées, injuriées, harcelées, isolées, dévalorisées. Et on comprend qu'il y a un schéma récurrent qui se dessine, un cycle de la violence qui est expliqué dans le film, avec notamment des phases dites de lune de miel, qui en fait a tout pour brouiller la clairvoyance des victimes. Vous vous retrouvez avec des femmes en face de vous qui sont souvent perdues.
Oui, elles sont souvent dans le déni aussi de ce qui se passe, parce que c'est honteux, parce que c'est compliqué, parce que d'un coup, il redevient gentil comme il était au départ. Elles sont aussi beaucoup dans la culpabilisation, et donc c'est très compliqué pour elles de parler, de libérer leurs paroles.
Ce qui est très novateur dans cette consultation, j'espère qu'elle va faire beaucoup de petits ailleurs, c'est qu'il y a une démarche proactive pour dépister ces femmes. C'est-à-dire, ils ne se contentent pas juste de soigner des bobos, c'est-à-dire qu'ils posent des questions à toutes les femmes qui passent aux urgences. Qui vous a fait ça ? Êtes-vous victime de violence ? Même si elles ne viennent pour tout à fait autre chose. Et donc, ils prennent le risque, entre guillemets, effectivement, de trouver énormément de choses. Et Jean-François, on peut peut-être évoquer aussi le dépistage que vous faites une fois par an dans tout l'hôpital de Saint-Malo, où ça se fait aussi dans tous les services, le même jour, où la question est posée à toutes les femmes hospitalisées. Avez-vous ou êtes-vous victime de violence ? Et là, on a un taux, mais incroyable, de une femme sur quatre qui dit « oui, j'ai été ou je suis victime de violence ». Et je pense que c'est ça un peu qui change fondamentalement dans l'attitude du soignant dans cette histoire, c'est qu'ils veulent savoir. Alors que traditionnellement, j'ai envie de dire, le monde médical ne pose pas vraiment la question. Éventuellement, ils attendent que ça leur arrive, mais ils ne se montrent pas du tout proactifs ni curieux.
Ce qu'on ressent dans le film, c'est une écoute quand même très approfondie et une empathie qui est quand même très marquée de votre part et puis de la part des soignants autour de vous. Jean-François Bouet, est-ce que vous estimez, enfin, pourquoi ça surprend finalement tant d'empathie? Est-ce que c'est pas encore la norme dans tout l'univers médical qui accueille ces femmes victimes de violences conjugales?
Non, c'est pas forcément la norme partout, loin de là. Non. Je pense qu'on a tendance quand même à se voiler la face, à ne pas dépister parce que ça rend mal à l'aise, qu'on ne sait pas quoi en faire, etc. Et puis on colle souvent des images, enfin des étiquettes sur ces femmes de victimes, de Zola, de machin. Et c'est pas bien. Et elles le méritent. C'est grandement ces femmes, cette empathie. C'est normal qu'on ait de l'empathie pour elles. Et franchement, encore une fois, ce n'est que de leur rendre justice, que d'être empathique avec elles.
Arrive ensuite le sujet déterminant des enfants de ces femmes qui sont victimes de violences conjugales, des enfants qui sont plus que des victimes collatérales, qu'il y ait des coups ou pas, ils sont les témoins souvent directs de ces violences, et on découvre qu'ils jouent un rôle important dans le signalement ou non des violences. Parfois les femmes culpabilisent, est-ce qui va déclencher un signalement de ces violences, parfois ça empêche parce qu'on a peur des conséquences de cette prise de parole là, mais c'est vraiment un sujet qui revient tout au long du film, Jean-François.
Oui, alors en fait, on travaille avec l'équipe de pédopsie du docteur Holnet de Saint-Malo qui s'occupe de la prise en charge des enfants, ça c'est très important. À partir du moment où la femme se rend compte que la violence va toucher les enfants, ça peut faire un déclic pour qu'on puisse faire quelque chose. Et puis à partir du moment où les enfants sont victimes de violence, victimes, c'est témoins de violence, ça peut nous permettre, nous en tant que soignants, de faire un signalement au parquet, c'est-à-dire de entre guillemets, déclencher la procédure judiciaire à la place de la femme. Et c'est important, ça permet quand même de casser cette spirale de conséquences de la violence sur les enfants et éventuellement de risque de répétition plus tard. Ils ont connu de la violence dans leur enfance, donc ils vont reproduire ces schémas violents plus tard quand ils seront adultes. Donc il faut vraiment agir.
On reviendra au sujet des signalements dans quelques questions, puisque le film se termine justement sur cette question qui se pose au monde médical de signaler ou non les faits au parquet. Quand même, vous demandez, Brigitte Chevet, donc vous avez tourné ce film en 2023 à l'hôpital, dans le service des urgences de l'hôpital de Saint-Malo. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver votre place pour filmer des paroles qui sont très intimes sur Cube, où on peut voir le film en ce moment? Elles sont décrites comme des paroles rares et bouleversantes. On imagine peut-être une position en retrait d'observatrice discrète.
Bah oui, c'est-à-dire que c'était évident pour moi dès le départ. À partir du moment où je suis rentrée dans cette salle de consultation et où j'ai commencé à écouter ces paroles, ça m'a sauté au visage évidemment et je me suis dit mais comment je peux filmer ça? Donc évidemment je ne filme pas les femmes, hein, elles restent anonymes et je me contente de filmer les soignants. À savoir un médecin et une assistante sociale à ses côtés, parce que c'est toujours en binôme hein, qui reçoivent les personnes. On dit les femmes, hein, mais c'est parfois des hommes aussi, hein, bien sûr, même si c'est majoritairement des femmes. Donc ma place, elle était toute petite, c'est-à-dire que bah, je me mettais un peu derrière les femmes pour ne pas gêner la consultation. Et évidemment, avec leur accord, hein, si elles ne voulaient pas de moi, ben, je partais. Et avec l'engagement du respect de l'anonymat. Donc, tout le poids, en fait, de la caméra était sur les soignants. Donc, je les remercie beaucoup quand même d'avoir accepté cette caméra intrusive pendant plusieurs semaines ou mois, parce que ça ne doit pas être évident. C'est ce que je leur disais. Moi, je n'aimerais pas être filmée en train de travailler comme ça. Mais je pense que c'était un endroit vraiment incroyable pour à la fois prendre conscience de cette réalité, voilà, c'est une femme sur 10 en France aujourd'hui est victime de violence. C'est tous les milieux, c'est tout genre de personnes. Il n'y a pas de milieu social plus que d'autres qui amènerait à cette réalité. Et il faut se former en fait à cette réalité-là. Et c'est ce que j'ai fait moi en assistant à cette consultation en petite souris. Et c'est ce qu'ont fait ces soignants et c'est ce que j'aimerais que tous les gens fassent, parce qu'il y a tellement de préjugés en fait autour de ces questions, d'idées fausses. Voilà, j'espère que le film peut essayer de débroussailler un petit peu tout ça.
le titre de ce documentaire, S'il sait que je suis là, il me tue, comment est-ce qu'il a été choisi?
Alors en fait, je ne l'ai pas inventé, parce que c'est vraiment une des premières phrases que j'ai entendues quand je suis venue assister à l'une de ces consultations, à l'invitation du docteur Boué. Là, j'avais pas de caméra encore, ni rien pour enregistrer, et c'était une petite dame, la soixantaine, vraiment très propre sur elle, très anodine, enfin, passe-partout, quoi. Et elle dit, ça fait 40 ans que je suis mariée, ça fait 30 ans qu'il me bat, et s'il sait que je suis là, il me tue. Et alors là, je m'en souviens encore de tout, quoi, parce que là, ça m'a transportée dans un monde. Et je me dis, ah oui, donc là, il faudrait que je fasse quelque chose de tout ça. Et donc, en titre de travail, j'ai gardé cette phrase, et puis finalement, on l'a gardée pour le film.
On le redit, votre mission dans cette consultation qui est dédiée aux femmes victimes de violences conjugales, Jean-François, c'est vraiment d'accompagner les patientes avant tout pour déterminer les limites dans leur relation avec leur conjoint violent, pour essayer de leur faire prendre conscience qu'elles sont en capacité d'agir. On le redit, en 2023, ce sont 134 femmes qui ont été victimes de féminicides en France. Féminicide, ça veut dire qu'elles ont été tuées en raison de leur genre, souvent par un conjoint ou ex-conjoint. J'ai choisi de prendre le chiffre du collectif Nous Toutes 35, qui intègre plus de cas que les chiffres officiels du gouvernement. Et vous l'avez dit, Brigitte, 10% des Françaises qui sont concernées par ces violences. Est-ce que depuis le lancement de la consultation en 2015, Jean-François Bouet, vous diriez que les choses ont changé sur les moyens déployés pour lutter contre ces violences-là? Est-ce que la consultation que vous avez lancée a déjà fait des petits ou pas encore?
Oui, on a des gens qui nous appellent, qui envoient des mails pour savoir un peu comment on a fait, comment on s'est organisé, etc. Oui, je pense que ça commence enfin à avoir une certaine prise de conscience du monde médical, du monde de la santé. Enfin, je pense qu'il y avait des gens qui s'en occupaient auparavant, hein. Mais ça bouge, les choses bougent et c'est très bien et c'est tant mieux. Pour l'instant, c'est pas encore, je pense, à la hauteur de ce qu'elles peuvent subir, ces femmes. Mais on est quand même sur une pente plutôt ascendante et c'est tant mieux.
Au-delà des consultations, on voit dans le film qu'il y a des temps de formation auprès de professionnels, notamment dans le champ de la justice. C'est aussi là que ça se joue, c'est d'aller diffuser un peu vos bonnes pratiques, on va le dire comme ça.
On essaie de former déjà le monde de la santé, déjà les soignants. Dans le film, c'est une formation aux aides-soignants. On fait des formations aux internes en médecine, on fait des formations aux élèves infirmières. Enfin, et infirmiers. Donc voilà, on essaie de sensibiliser le monde de la santé déjà à cette problématique de violence, parce que c'est important que nous puissions mettre en place un parcours de soins pour ces femmes. Le soin, théoriquement, le système de la santé, il sait faire. Ces femmes et ces hommes, même plutôt les femmes, méritent quand même qu'on mette un parcours de soins. Et donc ça, il faut sensibiliser les gens, c'est important de le faire.
Le film, on redonne son titre, S'il sait que je suis là, il me tue. Il est à voir en ce moment sur la plateforme bretonne cubeweb.media, également sur le site de France Télévisions. Et ce film, il se termine sur un moment assez fort. Vous intervenez en fait contre le souhait de la victime qui est en face de vous pour effectuer un signalement auprès du parquet. Pour donner quelques éléments, on a un conjoint qui bouscule cette dame, elle le raconte comme ça, qui l'isole de son entourage, qui menace de se tuer si elle part. Et vous le dites, vous n'avez pas le choix, vous ferez un signalement, tout en expliquant à un autre moment, lors d'une formation, que le judiciaire fait peur. C'est vraiment un tiraillement pour beaucoup de médecins, ce genre de décision.
C'est toujours délicat. On fait intervenir les forces de l'ordre, on va faire intervenir la justice, mais à un moment, il faut agir. Encore une fois, ne rien faire, c'est cautionner la violence. Et c'est important d'agir, c'est important de faire quelque chose en accord avec la victime le plus souvent, avec respect pour elle. Bon, dans le cas présent, il fallait faire quelque chose parce qu'on avait quand même un individu qui était dangereux, chasseur, machin. Voilà, il y avait un vrai risque pour cette femme, il y avait des enfants qui étaient victimes, donc il fallait faire quelque chose. Bon, c'est en quelque sorte, on dédouane un peu la patiente de déposer plainte elle-même, mais il est important que les forces de l'ordre, à un moment, arrivent dans le huis clos familial pour marquer une limite, et puis pour, c'est ce que je dis dans le film, la protection des personnes, elles doivent être protégées, et moi je ne sais pas faire, mais les forces de l'ordre, elles savent faire, elles savent bien faire, donc c'est important qu'on puisse s'appuyer sur elles.
Brigitte Chavez, que parmi les femmes qu'on rencontre, surtout qu'on entend, mais dont on devine aussi la fragilité à travers les gestes et leur présence dans le cabinet, est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué plus que les autres ?
Ah bah, sans aucun doute, la dernière consultation, effectivement, qui se finit sur cette décision du docteur Bouet. Enfin, vraiment, là, j'avais l'impression d'assister à une sorte d'exorcisme en direct, parce que le phénomène d'emprise sur cette femme de son mari violent était telle que...
Ça l'empêchait de prendre une décision.
Elle était paralysée. Et même sa mère qui était à ses côtés et qui était là pour la soutenir et lui dire « Mais va-t'en, je vais t'aider, etc. » Enfin, elle était soutenue par sa mère. Elle n'arrivait pas, quoi. Et donc, effectivement, l'irruption du tiers qui dit « Bah, stop, ça suffit, madame, on va vous protéger parce que là, vous n'êtes plus capable de le faire vous-même parce que vous avez été... en quelque sorte cassé, quoi. Isolé, dénigré, tabassé. Oui, ça, c'était très marquant.
Je comprends tout, mais je veux pas.
Vous êtes dépassé par ce que ça prend comme ampleur.
Oui.
D'accord. Mais en fait, encore une fois, l'ampleur, au départ, elle est parce qu'il vous a foutu dans les escaliers et vous a poussé dans les escaliers. C'est ça, le geste de trop, madame. Vous pouvez être en colère contre moi, madame. J'entends. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'exprimer, vous pouvez dire ce que vous voudrez. Après, moi, j'ai rempli mon rôle de soignant. J'ai rempli mon rôle de médecin, j'ai rempli mon rôle de signalement, c'est normal. Et après, c'est tout. J'ai fait mon boulot. Et je vous crois.
Je me souviens aussi de cette jeune femme qui était venue avec sa poussette et qui en était à son troisième conjoint violent, qui avait perdu un enfant à cause de la violence conjugale. Enfin... Là, il y a des personnes qui, effectivement, sont dans un processus d'accumulation parce qu'elles n'ont pas appris à se protéger. Et donc, je pense que tout l'enjeu de ces questions-là, c'est de libérer déjà cette parole, c'est important. Et puis que les gens apprennent à dire non, tout simplement.
Déconstruire ce cycle de la violence qui est expliqué donc dans ce film dont on redonne le nom « S'il sait que je suis là, il me tue ». Vous l'avez réalisé, Brigitte Chevet, il est à voir en ce moment sur cubeweb.media et sur le site de France Télévisions. C'est un film où on découvre votre travail, Jean-François Bouet. Vous êtes médecin à Saint-Malo et a ouvert il y a bientôt 10 ans une consultation dédiée aux femmes victimes de violences conjugales. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup.
Assis dans moi, assis dans moi, à mes bords toi, à mes j'ai fait. Assis-donne-moi, assis-donne-moi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Assis-donne-moi, assis-donne-moi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi.
Manuel l'aîné, Terreau, c'est le morceau que vous venez d'entendre sur Canal B, une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur ici à la radio. C'est un single qui est sorti le 19 février sur le label TFT et qui est en fait le premier extrait d'un album à paraître au printemps pour celui qu'on avait découvert dans le groupe normand Cannibal. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Avant de se quitter, c'est maintenant l'heure de la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils d'événements à vivre près de chez vous, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou de documentaire. Et aujourd'hui, on annonce la 25e édition des rencontres interculturelles Cévenadur qui se déroule en région rennaise depuis le 28 février et jusqu'au 17 mars. Il reste donc encore 11 jours pour le vivre, cet événement. Alors Cévenadur, ça veut dire culture en breton, un événement imaginé par le Cercle Celtique de Rennes et de nombreux partenaires. Une trentaine d'associations et structures aujourd'hui. Cette année, le festival il explore le thème de la nuit. Au programme des animations jeunesse, des stages, par exemple de broderie les 9 et 10 mars à la ferme de la Harpe, des rencontres, on peut se noter le ciné-conférence sur les collectes en danse mardi prochain le 12 mars à la ferme des Galets, mais il y aura aussi des créations artistiques, par exemple ce spectacle Tue l'héritage du loup et du lézard, c'est à voir dimanche 10 mars à la MJC de Passé, des moments de danse évidemment, un fest-noz est annoncé samedi 9 au triptyque à Assigné et un fest-dez le lendemain le 10 au parc balles à Rennes. Et puis on termine avec un mot sur les expositions. Le public peut par exemple découvrir Une nuit au parquet de balles à la Maison Saint-Cyr jusqu'au 16 mars, un travail photographique réalisé par Jean-Maurice Colombel. Le programme complet de ces 25e rencontres interculturelles Cévenadur, il est à retrouver en ligne sur cévenadur.org. Un festival à vivre jusqu'au dimanche 17 mars, jour du traditionnel forum des associations à l'Al Martenot, avec également fest-dez, danse, galettes et jeux traditionnels tout l'après-midi, ça fait envie. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.